Nous parlons tous les jours dans l'émission de la transition écologique. Mais que signifie vraiment ce mot de transition et comment parvenir concrètement à agir pour s'engager dans le mouvement? Grégory Derville est enseignant spécialisé en politique environnementale à l'Université de Lille. Il publie chez Terre Vivante « Réussir la transition écologique » en proposant des outils pour agir dans de très nombreux domaines. Il nous éclaire dans un instant. Il répond à toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux comme par exemple dans la story de la page Instagram de la Terre au Carré. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et on passe au vert dans quelques minutes.
On va faire une expo, tiens, aujourd'hui. On va se mettre dans la peau de personnages au bout du monde, mais confrontés au réchauffement climatique pour mieux les comprendre.
Dans la deuxième demi-heure, le nouveau portrait d'un mal-aimé de l'écologie. Antoine Lee a rencontré un éleveur de volailles. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Léo, un auditeur de la Côte d'Or qui va nous parler de son collectif qui travaille sur l'autonomie alimentaire et l'agriculture citoyenne. Et puis enfin, notre invité découverte est le géophysicien Sylvain Boulet autour d'un programme participatif sur les cratères d'impact creusés par les astéroïdes. Voilà donc pour le sommaire de cette Terre au Carré réalisée par Céline Hila avec la technique Tristan Gratalon et Kevin Pelot.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Bonjour Grégory Derville.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, enseignant donc spécialisé en politique environnementale à l'Université de Lille et vous êtes impliqué à plusieurs niveaux dans le collectif Beauvais en transition. C'est un collectif d'associations et de citoyens qui organise donc des événements et des actions pour rendre ce territoire plus résilient. Exactement. Et vous publiez donc Réussir la transition écologique aux éditions Terre Vivante avec une préface de Pablo Servigne. C'est l'occasion donc de creuser avec vous cette notion de transition très souvent évoquée de plus en plus, mais qui n'est pas d'ailleurs forcément toujours bien comprise. Ce mot de transition, alors ça veut dire quoi et quand est-ce que le mouvement est né? Alors si on fait un peu d'histoire.
Il y a beaucoup de définitions, ouais. Beaucoup de transition écologique. L'intitulé d'ailleurs figure aujourd'hui dans le nom du ministère. Donc il y a la définition un peu officielle, institutionnelle, ouais. D'entreprise, etc. Et ce mouvement, qui est un mouvement international, qui est né en Angleterre, a une définition qui est très sensiblement différente. Ça a été créé par un professeur de permaculture dans une petite ville anglaise qui s'appelle Totnes, qui est un petit peu une ville bobo, on va dire, en Angleterre. Et Rob Hopkins, il s'appelle ce professeur. Et en fait, c'est un mouvement qui est extrêmement original dans la sphère, la galaxie écologiste, notamment pour nous Français, parce qu'il part d'un diagnostic qui est très très sombre, qui est lucide à mon avis, mais qui est très sombre de la situation écologique et sociale, mais qui par ailleurs est très très pragmatique. Et qui part du principe qu'il faut que les citoyens, de manière locale, dans leur territoire, de manière autonome, essayent de mettre en œuvre des alternatives dans plein de domaines pour faire en sorte que les petits territoires sur lesquels ils vivent soient résilients. Et résilient, ça veut dire qu'ils soient capables d'encaisser le choc du changement climatique, du pic pétrolier, du pic des métaux, de l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est un mélange de radicalité dans l'analyse et de pragmatisme et d'enthousiasme, en fait, dans des actions.
C'est l'autre face, finalement. Exactement. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que le constat aujourd'hui est très catastrophiste, mais il y a cette dynamique qui existe, qu'on ressent d'ailleurs, nous, ici, en parlant tous les jours de ce thème de l'écologie, et qui fait que, finalement, il y a quand même des espoirs qui existent et de l'action qui est là déjà en train de se faire.
Alors de l'espoir, je sais pas fortement, j'aime pas trop l'utilisation du terme espoir ou optimisme quand on parle de la situation. J'ai souvent coutume de dire que la situation est extrêmement grave et en général elle est toujours beaucoup plus grave que ce que les gens, même qui se croient informés, savent. Mais en fait on n'a pas besoin d'espoir ou d'optimisme, on a besoin d'avoir de lucidité et puis ensuite de courage, d'enthousiasme, de volonté, de détermination. Et après que ça marche ou que ça marche pas, que ça change le monde ou que ça change pas le monde. La caractéristique de ce mouvement, ça consiste à dire, à la limite, c'est pas très très important, c'est pas très grave. L'important, c'est de prendre la mesure de ce qu'il y a à le faire et de le faire.
Donc c'est d'être dans l'action quand même.
Exactement, c'est de passer de la sensibilisation à l'action.
Et entre Rob Hopkins et le ministère de la Transition, c'est quoi le lien direct?
Il y a des différences
deux planètes
très
différentes.
Assez différents, même si l'un des principes importants de ce mouvement de la transition, c'est, on en parlera tout à l'heure peut-être, c'est la notion d'inclusivité. Alors l'idée de l'inclusivité, c'est de dire les écolos habituellement parlent à des écolos, organise des événements pour écolos dans lesquels on se rencontre, c'est bien agréable, on se convainc soi-même en fait, on convainc des déjà convaincus, et évidemment ça ne suffit pas, et donc l'idée c'est si on veut mettre en place des actions qui soient pas simplement des petits gestes collectifs, mais des actions collectives d'ampleur qui se transforment véritablement le visage des territoires, il faut bien convaincre des gens qui sont pas déjà convaincus, donc ça peut être des entreprises, ça peut être des associations pas forcément écolos, ça peut être des clubs du troisième âge, des Rotary Clubs, enfin peu importe, hein. Et puis des institutions. Donc les chambres d'agriculture, les élus locaux, parce que si on veut par exemple faire en sorte que tout le monde sur un territoire ait la possibilité de se déplacer quotidiennement en vélo, c'est pas une multiplicité de petits gestes de gens qui vont dire je prends mon vélo qui vont changer quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait des pistes cyclables, il faut qu'il y ait des arceaux, enfin il faut qu'il y ait des infrastructures, ouais. Donc de l'action politique. Voilà, donc c'est cette alliance entre des choix individuels et des actions collectives. Qui est la caractéristique
donc,
de ce mouvement.
Idéalement, la transition, c'est à toutes les échelles de la société, c'est-à-dire du citoyen aux États,
exactement.
À ceux qui décident, en passant par les industries.
Exactement. Alors ce mouvement, le mouvement de la transition, part du principe qu'il y a beaucoup de choses à faire et que chacun ne peut pas s'occuper de tout, que les éco-gestes et les petits gestes citoyens, c'est la base de la base, le béaba, et que tout le monde devrait idéalement faire ça. Ça ne suffit pas. Et après, chacun, en fonction de ce qu'il sait faire, de ses compétences, de ses appétences, peut se spécialiser en quelque sorte sur différents types d'actions qui sont complémentaires. Les uns vont faire de la politique, les autres vont faire de la sensibilisation, les autres vont occuper des ZAD par exemple. Et puis le mouvement de la transition insiste plutôt sur l'importance aussi de créer des alternatives déjà, de créer un plan B en fait.
Ouais. Alors ça c'est la théorie, et puis il y a la pratique, c'est l'objet de votre livre, hein, aussi d'être très concret dans les actions à mener, avec des priorités d'ailleurs aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il y a beaucoup de choses qui marchent pas non plus, donc il faut se repérer, c'est toute la difficulté aussi hein, de pouvoir bien identifier les propositions véritablement intéressantes et efficaces. On commence par quoi alors quand on décide justement de mettre son quartier, son immeuble, son territoire en transition?
Alors,
c'est quoi les priorités?
Il y a un point important qui est de ne pas se jeter tête baissée dans l'action. Ça, c'est un des écueils dans lesquels on risque de tomber assez rapidement.
Attention à l'enthousiasme débordant.
Parce que on a, enfin, énormément de gens ont connu cette déception qui peut être cuisante, hein, qui peut être très très douloureuse, de voir qu'il y a un mouvement qui s'est enclenché et puis le soufflet est retombé très vite parce qu'on a organisé un événement qui était peut-être pas forcément le meilleur pour sensibiliser, pas forcément la meilleure date au meilleur endroit, on n'était pas prêt, on n'était pas assez nombreux, etc. Et puis finalement, il n'y a pas grand monde qui est venu et ça peut retomber assez vite. Ou alors, un des autres écueils aussi, c'est d'organiser des petits événements qui sont sympas, mais qui restent très très cosmétiques, parce que je disais pour commencer, sans vouloir être très très sombre, mais ce mouvement part quand même d'un diagnostic qui est effectivement objectivement catastrophiste, et donc il invite bien quand même à avoir en tête que les actions doivent être à la hauteur de ce diagnostic, et que si on se contente juste de petites actions collectives assez sympas, mais qui engagent quelques dizaines de personnes.
Alors c'est quoi les priorités justement? Sur quoi on agit d'abord? Sur la consommation d'énergie par exemple?
La consommation, alors...
Sur le fait de baisser notre consommation d'énergie fossile?
S'il fallait résumer peut-être en deux, trois mots, je dirais que la principale priorité c'est de relocaliser la quasi-totalité des activités qu'il est essentiel, qu'il est possible de relocaliser sur chaque territoire. L'objectif fondamental de ce mouvement, c'est de faire en sorte qu'un territoire, une petite ville, un quartier, soit capable de fournir, pas tout, mais l'essentiel de ce dont il a besoin pour nourrir sa population, pour fournir son énergie, pour fournir les objets les plus quotidiens, en quelque sorte. Ce qui est aujourd'hui absolument pas le cas. On est dans des systèmes qui sont avec des chaînes très très longues, complètement internationalisées. Donc faire en sorte de ramener le plus possible d'activités sur chaque territoire. Donc délocaliser en quelque sorte, relocaliser dans chaque territoire, mais délocaliser beaucoup d'activités qui sont dans des très gros centres urbains, des grosses usines, des gros centres de logistique. Voilà. Donc ça c'est un enjeu très très important, parce que du coup après, quand un territoire a besoin et est capable de produire l'essentiel de ces services, ben finalement, il y a plein d'activités qui vont se déployer elles-mêmes. Puis alors, ça va être selon les cas, de la consommation, de la réparation, du transport, de la production alimentaire, peu importe.
Les aspects humains, c'est très important. Renforcer les liens, la solidarité, la coopération, ça aussi, ça fait partie des initiatives de la transition.
Exactement, et c'est l'un des points sur lesquels j'insiste beaucoup dans la deuxième partie du livre, qui est consacré à la manière dont concrètement, au quotidien, on va faire vivre ce que le mouvement appelle une initiative de transition. Beauvais en transition, mais ça peut être, je sais pas moi, Bayonne en transition, Strasbourg en transition. Comment on va concrètement créer un mouvement, recruter des membres, se mettre d'accord sur des principes de fonctionnement, sur des mécanismes de décision, sur des pratiques de délégation, qui est responsable de quoi, qui propose quoi. Et ça, c'est effectivement, on parle souvent de putain de facteur humain, pour dire que très souvent, les actions s'effondrent ou butent sur cet écueil-là. Et c'est un enjeu effectivement très, un peu, très essentiel.
C'est Hubert Reeves qui nous en avait parlé d'ailleurs à ce micro-là, du putain de facteur humain. On aura d'ailleurs une illustration très concrète aussi d'un village en transition. l'alimentation et de l'agriculture citoyenne tout à l'heure dans vos solutions pour la planète. Ça se passe à Malin, en Bourgogne, et ce sera aussi une façon de voir comment ça se passe sur un territoire comme celui-là. On va se retrouver dans quelques instants. Il y a plein d'autres choses à dire, évidemment, sur la possibilité de réussir cette transition écologique et les outils pour agir ensemble. C'est chez Terre Vivante. Et Grégory Derville, vous êtes l'invité de la Terre au Carré. Il y a plein de questions pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille Cronier, vous nous emmenez aujourd'hui en immersion dans une exposition.
Oui, l'exposition naît quelque part. Elle est passée par Roubaix, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Marseille avant d'arriver à Paris jusqu'au 24 novembre, donc la fin de la semaine prochaine. Exposition dont le principe est assez simple, se mettre dans la peau d'un personnage touché notamment par le réchauffement climatique.
Toi, tu as repris la ferme d'huîtres perlières de ta mère, mais tu es inquiet. L'eau de la mer se réchauffe depuis quelque temps.
Là, pareil, voilà, me dit cette charmante voix de robot. Je suis Ioa, polynésien, et c'est un comédien qui m'accueille ensuite avec les autres visiteurs pour nous expliquer la situation.
Yaorana, bienvenue à Fakaraba. Installe-toi, mon ami. Ici, là, comme vous savez, là, on est au cœur de l'océan Pacifique Sud. Ici, nous, on s'appelle les îles Basses. Parce que nous, ici, on est à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. C'est le point le plus haut, 1 mètre. Je dis ça parce que t'as vu tous les scientifiques qui arrivent en ce moment-là. Hein ? Ils viennent, ils se promènent, ils font des tests. Ils disent que dans moins d'un siècle, mon ami, dans moins d'un siècle, nous, on pourrait être complètement recouverts par les océans. Disparaître.
Ioa, le producteur de perles, sa petite amie vétérinaire spécialiste de la protection des tortues, son père, pêcheur, sont confrontés à la montée des eaux et à l'érosion du corail, une réalité aujourd'hui en Polynésie.
Dans l'archipel de Tuamotu, là, ils disent qu'il pourra y avoir plus souvent des vagues de 12 à 15 mètres de haut. Et nous, je te rappelle, notre îlot, il est à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, mon ami.
Alors une fois le constat établi, l'idée bien sûr c'est de trouver des solutions en rencontrant d'autres personnages, par exemple une fausse responsable politique locale.
Nous demandons que cet espace soit reconnu comme un des plus grands puits carbone au monde. Au même titre que les forêts de l'Amazonie.
Pendant qu'entre chaque séquence, le casque dans les oreilles, donc la charmante voix de robot, prend bien soin de nous rappeler qu'on est mal. Hein.
Vous êtes les premières victimes du réchauffement climatique à cause des activités des autres pays et de l'émission de CO2. Personne ne s'interroge sur votre avenir et celui de votre nature. Les coraux, les dauphins, les raymontas.
Ça fait rêver, hein, mais chacun se laisse embarquer quand même, avec même des jeux de rôle, genre le local face à l'inconscient touriste.
On a besoin que les coraux soient respectés. Et puis en plus, s'il n'y a plus de coraux, vous ne voudrez plus venir.
On pourra toujours en acheter d'autres en plastique.
Voilà, pendant plus d'une heure et demie, on s'y croirait presque, hein, entouré d'images projetant l'eau turquoise, les cocotiers avec le bruit des vagues. Pendant que dans la pièce d'à côté, un groupe est au Cameroun pour parler déforestation au son des tronçonneuses, ou encore un autre au Cambodge où il est question d'agriculture. Et à la fin, tout le monde se rencontre et échange.
Les tortues sont extrêmement menacées par le réchauffement climatique.
Alors on va en prendre soin.
Il y a la déforestation des arbres et les éléphants, il y en a de moins en moins à cause du braconnage.
T'as appris tout ça aujourd'hui là ?
Oui, j'ai appris beaucoup de choses. En plus, on a travaillé en équipe.
Et apprendre de façon ludique en se mettant donc dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est bien l'idée de l'exposition. Écoutez la directrice artistique Cécile Delalande.
Toute la question, c'est de se dire qu'est-ce qui va faire que je vais modifier mon comportement. C'est quand on a vécu quelque chose et tout d'un coup, la projection marche. Tout d'un coup, l'empathie se fait et finalement, on se rend compte qu'on a tous les mêmes besoins et les mêmes objectifs communs sur cette planète.
Et visiblement, la technique a marché sur les visiteurs, enfants et adultes qui m'entouraient.
On comprend mieux.
Je pense que c'est aussi plus efficace. On est totalement immergé dans la vie de la personne. On voit tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut faire.
Tu prends conscience que il y a des problèmes dans le monde et dans d'autres continents et tout.
À la base, moi, j'étais pas du tout concernée par le sujet. Enfin, je sais que c'est critique et qu'il faut faire quelque chose, mais j'y ai jamais véritablement pensé. Et là, le fait de voir un cas précis, ça m'a beaucoup intéressée et envie de faire plus de choses pour aider. Je pense que c'est mieux que de regarder des photos ou écouter les médias, qui ça nous intéresse pas forcément.
Eh ben, sympa pour nous. Enfin, il y en a quand même qui rigolent moins. Ce sont les 18 personnages bien réels devenus héros malgré eux.
Alors, où est-ce qu'on peut voir justement cette exposition née quelque part,
Camille ? Alors, donc, c'est à Paris jusqu'au 24 novembre, fin de semaine prochaine, à la Cité de l'économie, en partenariat avec l'Agence française de développement.
Et on réécoute votre chronique sur franceinter.fr.
Est-ce que Grégory Derville, vive les choses, s'identifier pour mieux les comprendre et peut-être agir derrière, est-ce que finalement c'est quelque chose d'efficace mais de durable ?
Alors, c'est une question qui est extrêmement compliquée et à laquelle il n'y a pas de réponse en fait qui vaille pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le même message d'information ou de sensibilisation peut avoir des effets qui sont complètement différents sur des publics différents. Souvent, on dit qu'il ne faut pas faire peur, par exemple. Et effectivement, il y a des gens, quand ils éprouvent de la peur, ça les tétanise, ils se bloquent, ils ferment les écoutilles, ils pensent à autre chose. Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, ont besoin de passer par l'étape de la peur pour se sensibiliser. Donc, c'est une réponse qui est très complexe et c'est pour ça que c'est très important de sensibiliser presque de manière interpersonnelle, parce qu'on voit les réactions en fait chez la personne et on voit qu'on peut adapter le discours et puis utiliser les arguments qui touchent, qui
mais
portent.
Mais vous dites quand même que pour que les gens aient envie d'un changement et pour qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils voient où on leur propose d'aller. Donc il faut les immerger d'une façon ou d'une autre finalement.
Alors ça c'est ce qu'on appelle le visionning.
Ouais. C'est très moche comme mot.
C'est
classique.
Visionning,
classique effectivement. C'est l'idée plutôt que de seulement faire peur en décrivant la situation actuelle, c'est aussi intéressant de dire mais une situation alternative ou un avenir plus désirable qui pourrait advenir si jamais on fait tous ce qu'il faut. Il y a du boulot, ça pourrait donner envie de faire les gestes nécessaires pour s'en rapprocher. Donc
on en discute dans un instant. Il y a des questions à ce sujet de la part des auditeurs. Grégory Derville, vous êtes l'invité de la Terre au Carré. Fire, c'était Black Pumas sur France Inter.
La Terre au Carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà Camille, on peut potasser réussir la transition écologique, des outils pour agir ensemble.
On le fait tous les jours ici.
Avec Grégory Derville qui est notre invité justement et qui a publié cet ouvrage chez Terre Vivante. Et il y a des questions évidemment pour vous. On va tout de suite au standard de la Terre au Carré où nous attend Gilbert. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
On vous écoute, bienvenue à vous.
Bonjour.
J'habite ma d'Artigues, mais je suis aussi de Lille.
Oui.
Et si j'interviens par un coup de gueule, c'est pour dire que je suis d'accord pour la transition écologique, mais en ce qui concerne le réchauffement climatique, il faut arrêter de culpabiliser les Français parce qu'ils sont pour rien. Et tout ce qu'on va faire pour l'écologie n'aura aucune incidence sur le réchauffement climatique. Nous sommes 60 millions de Français qui auront déjà un bon résultat et on va passer à 7 ou 9 milliards. Faites une règle de 3. Je pense que l'intervenant de Lille, il sait faire une règle de 3.
Ah oui, justement, je sais faire des règles de 3. Si vous voulez, on pourrait les comparer, les miennes et les vôtres.
Alors, Grégory Derville, une réponse. On ne peut rien faire pour le réchauffement climatique, terme employé par Gilbert.
Bon, déjà, réchauffement, il faudrait plutôt dire dérèglement, déjà.
Pourquoi d'ailleurs, pourquoi?
Parce qu'en fait, le problème n'est pas simplement qu'une élévation graduelle de quelques degrés en permanence de 1 ou 2 degrés, par exemple. Le problème, c'est la modification de la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre qui fait que, en fait, les événements climatiques sont plus extrêmes, sont plus intenses, sont plus erratiques, sont plus difficiles à encaisser pour l'ensemble des écosystèmes. Donc, la situation, enfin, ça n'est pas qu'un réchauffement. Si c'était juste un réchauffement, ce serait pas bien grave. Il n'y a pas que le changement climatique, il y a la biodiversité, l'épuisement des ressources.
Ouais. Donc tout ça explique la complexité du système,
exactement,
global. Hein.
Voilà, donc dire nous ne sommes pas responsables. Alors dans le livre, il y a un moment où j'explique les différences d'attitude par rapport à la crise écologique depuis la situation de déni jusqu'à le fait d'être à la fois conscient et actif et dans les différentes formes de déni. Ça s'actualise par plusieurs types de comportements ou de réactions, dont celle-là qui est en fait la contre-attaque. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc ça va être les Chinois qui avec leurs usines à charbon, ça va être les Africains qui font trop d'enfants, les multinationales qui produisent,
c'est
qui
extraient du pétrole. C'est de repousser géographiquement les problèmes.
Ce qui est une manière de se dédouaner des responsabilités. Bon, alors ça c'est déjà une première réponse. C'est pas parce que d'autres font pire que nous, on est complètement dédouanés de faire quoi que ce soit. Et puis il n'y a pas qu'une question de lutte contre le changement climatique. Il y a aussi une question d'adaptation aux conséquences du changement climatique et aux autres phénomènes. Et le mouvement de la transition, il a aussi cet objectif-là, de faire en sorte que de partir du point de vue que de toute façon ces mouvements sont lancés en une inertie énorme, qu'on va se les prendre dans la figure de toute façon, et que si on ne fait rien, on est presque à poil, donc il faut des plans B, il faut des actions concrètes.
Et c'est ça la transition, c'est le plan
exactement,
B. Hein.
Exactement.
Vous parlez de déni ou de se dédouaner, il y a aussi tout simplement un sentiment d'impuissance,
d'impuissance
de se dire qu'à
ouais.
notre propre niveau, même si on fait des choses, si les industries, les politiques dont vous parliez ne suivent pas, rien ne changera. Donc qu'est-ce que
exactement.
Vous répondez à ce sentiment d'impuissance qui existe aussi?
Alors, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y a différents niveaux d'action
et que les petits gestes sont importants.
On a besoin de tout, on a besoin d'une myriade de gens qui font leurs petits gestes, on a besoin de gens qui s'engagent en politique, qui votent, qui font du lobbying, du boycott, de tout ce qu'on veut pour mettre la pression sur les dirigeants politiques. On a besoin éventuellement de gens qui s'engagent pour s'opposer à, je sais pas, une ferme des 1000 vaches ou un aéroport à Notre-Dame-des-Landes par exemple. Et puis on a besoin de gens qui jettent les bases de la société de demain avec des actions concrètes au niveau des territoires. On a besoin de tout ça à la fois. Et c'est pas parce qu'on n'est que 60 millions sur un paquet de milliards qu'on est dédouané de faire ça, et d'autant plus que moins on le fait, plus on sera vulnérable au moment où notre système économique, industriel ne tiendra plus. Et on n'en a pas pour 50 ans.
Alors Denis souhaite poursuivre là-dessus, je crois, au standard de la Terre au carré. Bonjour Denis.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Contrairement à votre précédent éditeur, je ne suis pas dans le déni. Mais je me pose peut-être la vraie question. Dans quelle mesure et à quel point on peut entretenir l'espoir qu'on pourra sauver la planète par une accumulation de petits gestes, bons pour l'environnement, me semble assez dérisoire. Non seulement les petits gestes, même nombreux, demeurent insuffisants par rapport aux enjeux, mais encore, à mon sens, ils contribuent moins à infléchir la trajectoire actuelle qu'ils ne servent d'alibi pour s'y maintenir. Je prends un exemple, puisque je fabrique moi-même mon dentifrice, je peux bien continuer à prendre l'avion. Donc, pour moi, l'enjeu est bien plus important. Il me semblerait que la nécessité d'une démondialisation, je vais y arriver, me paraît plus adaptée, c'est-à-dire une prise de conscience internationale qui permettrait peut-être d'inverser une économie prédatrice des ressources naturelles. Après, que chacun puisse contribuer à son petit niveau par sa prise de conscience, ça me semble, oui, de bons gestes, mais pas suffisamment nécessaires. Il faut vraiment une prise de conscience internationale. Et en cela, il me semblerait que notre président Macron n'ait pas mesuré l'enjeu, puisque lui-même est signataire d'accords internationaux qui vont pas du tout dans le bon sens. Je m'arrête là parce que, historiquement, je pourrais reprendre, en fait, tous les acteurs néfastes, on finance Total, justement, tous les éléments carbone qu'il faudrait laisser au sol.
Enfin, alors, par exemple, Denis, on va vous répondre.
On peut se faire plaisir.
On va vous répondre.
L'enjeu est bien
Denis,
plus important que ça.
Merci. On va vous répondre. Grégoire Dervid souhaite vous donner des éléments
fait,
de réponse.
Je suis un petit peu embêté parce que j'ai dit à peu près la même chose, il me semble. C'est-à-dire que j'insiste bien sur le fait que les petits gestes, c'est le béaba. Tout à l'heure, je disais le béaba, mais que ça ne suffit absolument pas, que c'est à des années-lumière des besoins, que ce dont nous avons besoin, c'est une transformation radicale de nos manières de nous déplacer, d'habiter, de produire de la nourriture, de consommer, de recycler, de tout ça, et que ça doit se faire à l'échelon local le plus possible, tout simplement parce que c'est là où on peut le plus possible bâtir de la résilience.
Allez, on poursuit sur ce qu'on disait tout à l'heure. Myriam nous demande sur franceinter.fr, par quel projet conseillez-vous de commencer pour amorcer la transition à l'échelle de son village ou de son quartier, justement, un site de compost, un jardin partagé, un Ripper Café?
Alors, réponse très simple, il n'y a pas de loi générale. La réponse, c'est tout simplement faites en fonction de votre contexte, de qui est motivé, de qui veut s'engager, qui a du temps, où sont les besoins les plus criants. Il ne faut pas s'astreindre absolument à se dire, tiens, dans tel patelin ou dans telle ville à 200 km de là, ils ont mis en place une monnaie locale, il faut qu'on ait la nôtre. Si vous n'avez pas les forces, les ressources, les compétences, les connaissances pour mettre votre monnaie locale, vous allez vous épuiser pour bâtir un projet qui finalement ne tiendra pas. Donc il vaut mieux commencer petit, et montrer à la population localement que ce que vous êtes déjà capable de faire, et puis progressivement agréger, donner confiance et donner envie d'aller plus loin.
Question de Cécile par mail, comment impliquer les enfants dans des projets concrets, et les adolescents aussi d'ailleurs?
C'est un petit peu la même réponse, choisir des projets dans lesquels ils vont pouvoir s'investir très facilement, qui ont du sens pour eux. Alors là, pour le coup, on va pas bâtir une monnaie locale, par exemple, si on veut impliquer les enfants, on va plutôt choisir des actions sur le compostage, le jardinage, parce que des actions dans lesquelles ils vont pouvoir mettre les mains dans la terre, tout simplement, s'amuser, faire des projets d'école,
etc.
Et
les ados qui sont plus grands et qui n'ont pas du tout envie de faire ça.
Les ados, il peut y avoir des actions de ce type, ou des actions sur le bricolage, par exemple, ou l'entretien de vélo, ou ce genre de choses. Très souvent, les ados adorent apprendre le bricolage. Un Ripper Café, par exemple, un Ripper Café, voilà une action qui est très... Alors là, pour le coup...
C'est quoi le Ripper Café ?
Un Ripper Café, c'est un lieu dans lequel vous mettez en commun des bricoleurs qui savent réparer et des gens qui ont des objets qui ne marchent plus et qui ne savent pas forcément réparer. Et vous les mettez ensemble et les uns amènent leurs objets, les autres, alors non pas réparent, mais montrent comment on le répare et apprennent à réparer. Et alors là, c'est un objet, ça coûte rien du tout. Chacun vient avec ses outils, ses objets. Vous n'avez même pas besoin d'un local, ça peut être un préau d'école, etc. Et c'est intergénérationnel, il y a de la mixité sociale, il y a tous les groupes sociaux, c'est festif, on répare un objet, ça chante ou ça applaudit. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment une action très bien pour commencer.
On parle souvent en ce moment des nouvelles organisations, voire de nouvelles démocraties, et d'une sorte d'horizontalité sans hiérarchie particulière. Vous vous dites quand même, il faut former des groupes. Un groupe initiateur, oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même des forces vives, des personnes qui motivent les autres.
Exactement.
C'est important pour réussir.
L'expérience montre malheureusement que c'est difficile de croire au fait que des mouvements vont spontanément émerger et être efficaces. Il faut quand même un minimum d'organisation. Donc l'idée du groupe initiateur, en fait, c'est juste l'idée de quelques personnes qui se rassemblent et qui vont créer ce qu'on appelle souvent dans le monde administratif un comité de pilotage, c'est-à-dire qu'en gros, qui vont préfigurer ce que pourrait être le territoire plus tard, et puis commencer à se répartir les tâches, faire le travail de sensibilisation, recruter des membres, etc. Et ça ne s'improvise pas, il faut quand même pas mal de compétences.
Question courte, c'est Balbo Servigne donc, qui fait la préface de votre livre, qui est très survivaliste, etc. Est-ce que le survivalisme, les stages de survivalisme sont une solution que vous pourriez proposer ?
Survivaliste, je ne sais pas s'il utiliserait le terme, mais il y a un moment dans le livre où je dis la transition écologique, telle que je l'entends, c'est du survivalisme collectif. Il s'agit de, non pas d'aller se barricader dans son bunker ou de se conserver des ressources pour plus tard, mais il s'agit de faire en sorte que le territoire soit effectivement capable d'encaisser le choc. Donc il y a une forme de survivalisme, mais solidaire. Effectivement, ça peut passer par ce genre de stage, d'apprentissage, je sais pas moi, pour faire pousser des plantes, reconnaître les plantes comestibles, ce genre de choses.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, réussir la transition écologique avec des outils pour agir ensemble, c'est chez Terre Vivante et vous en êtes l'auteur, Grégory Derville. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Dans la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Dans cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Léo, c'est un auditeur de la Côte d'Or qui va nous parler de son collectif qui travaille justement sur l'autonomie alimentaire et l'agriculture citoyenne. Et puis enfin, notre invité découverte est le géophysicien Sylvain Boulet, qui est auteur d'un programme participatif sur les cratères d'impact creusés par les astéroïdes. Mais pour le moment, un nouveau reportage sur les mal-aimés de l'écologie. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Et aujourd'hui Antoine, vous avez rencontré un éleveur de volailles.
Ouais, Christophe Robin a repris l'exploitation de ses parents depuis 7 ans. Dans la commune de Sonchamp, dans les Yvelines. Il élève près de 3000 volailles par an, des poulets, des oies ou encore des pintades, qui seront vendues sur les marchés, dans certaines boucheries ou directement à la ferme familiale. Alors depuis plusieurs mois, les éleveurs, les bouchers et les abattoirs sont les cibles d'actions coup de poing depuis de la part de mouvements véganes antispécistes considérés comme radicaux. Christophe Robin a bien conscience de l'hostilité de ses défenseurs du droit animal. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son poulailler pour nous prouver que ces bêtes sont bien traitées.
J'aime ce que je fais. J'ai fait une carte de visite, j'ai marqué éleveur passionné dessus. Enfin, voilà, je crois que ça résume tout, quoi. Je sais pas, vous avez vu les coqs et les poulettes là, elles sont magnifiques, quoi. Ça fait 2,4 kg morts, ça, prêtes à cuire. C'est des belles volailles, quoi. C'est bien fourni, c'est bien dodu. Enfin, tout se passe bien.
Il y a les véganes qui ciblent des gens comme vous, qui élevez des animaux dans un but commercial. Vous, comment vous le vivez, ça?
Ces gens-là sont bien gentils, mais ils se trompent de cible, je crois, en fait. C'est un non-sens, leur combat, quoi. Enfin, aujourd'hui, on est dans un pays où la gastronomie et la viande a toute sa place. S'ils veulent manger comme ça, qu'ils le fassent. Maintenant, qu'on n'empêche pas les gens de travailler. Je crois qu'aujourd'hui, on a une ferme France qui est reconnue à travers le monde. Il faut arrêter de taper sur l'agriculture française, quoi. Enfin, l'agribashing, on en a marre. Si on tape sur les agriculteurs qui produisent de la viande, à terme, on apportera de la viande qui ne vient pas de France, qui ne viendra peut-être même pas d'Europe, et qui sera élevée dans des conditions qui ne sont pas le gage de qualité de ce qu'on leur propose aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des cahiers. Voilà, moi, c'est du poulet fermier, donc je suis le cahier des charges de la chambre d'agriculture. Élevé en plein air, durée d'élevage supérieure à 90-120 jours, atelier de découpe local où on fait travailler du monde. Si demain on va chercher du poulet brésilien, enfin, faut savoir que quand même on apporte 50% de nos productions, de nos besoins en poulet, et ça vient majoritairement du Brésil quand même. Donc, du poulet brésilien, ça veut dire qu'il est chloré, ça veut dire qu'il est aux antibiotiques massifs. Faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, en France, on fait de la qualité et c'est reconnu. Faut nous laisser travailler.
Il y a une poule qui m'empêche de travailler, qui me pique la botte là.
Ouais, elle est curieuse. Elle n'est pas habituée à ce qu'il y ait un journaliste dans le poulailler, c'est pour ça.
Vous placez sur un plan professionnel, mais ces véganes-là, ces antispécistes, se placent sur un plan philosophique. C'est-à-dire que l'animal doit être égal de l'homme.
On n'a pas un échange verbal avec les animaux, quoi. Enfin. Oui, il y a ce passage où il faut emmener la bête à l'abattoir, qui est pas forcément facile hein, pour l'éleveur, mais c'est aussi son gagne-pain. On les emmène au dernier moment à l'abattoir pour qu'il y ait moins de stress possible. Elles sont endormies avant d'être saignées. C'est comme ça que ça se passe.
Vous savez que les plus radicaux s'en sont pris physiquement à des bouchers, à des éleveurs.
Ils ont visité mon abattoir. L'abattoir, il a été visité, il a été tagué. Alors, ils ont voulu sauver des animaux, ils ont ouvert les portes. Donc les pintades, il a fallu courir après. C'était en pleine nuit, donc elles ont attrapé froid. Donc moi j'épaule pas ça, c'est pas du sauvetage, c'est même pire. C'est du saccage.
On sent que ces gens-là vous énervent. Hein.
Mais je vais venir chez vous, je vais saccager votre voiture en pleine nuit. Vous pourrez pas aller travailler demain. Qu'est-ce que vous en pensez? À partir du moment où j'élève des bêtes pour m'en nourrir, moi ou mes clients, c'est contre leurs valeurs. Donc je pourrais pas discuter avec ces gens.
Vous avez peur d'être vous-même visité par ces véganes?
Oui, c'est un risque. Maintenant, on se protège, on a des caméras, on a des alarmes, et puis voilà. Mais,
vous avez installé ces systèmes de surveillance pour ça?
On prend les précautions adéquates pour se protéger.
Et si un jour ils viennent chez vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire?
Faut pas que je tombe en face, c'est tout. Hein, mais,
ouais, se passerait quoi?
Non, mais j'en sais rien, mais ça se passerait pas bien. Après, on est des gens raisonnables, mais... S'ils s'attaquent à moi, ça se passera moins bien, c'est tout. Je suis paysan, je suis passionné. Cette passion, elle me coule dans le sang. Donc, je vais pas me laisser impressionner par un groupe de personnes extrémistes qui veulent absolument imposer leur façon de voir les choses.
Alors, si vous voulez voir les photos de Christophe Robin et de ses poules, c'est sur la page Facebook de l'Attaque.
On y va tout de suite, Antoine. Et demain, on part où avec vous?
Eh ben, demain, on part en mer pour embarquer avec un marin pêcheur.
Également un mal-aimé de l'écologie, alors comment on va le découvrir. Et ce sera le dernier épisode
de la semaine.
Merci beaucoup.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Vous êtes déjà allé à Malin, Camille?
Non, par contre, vous êtes très malin. Je fais une blague à deux balles. Mais
en Côte d'Or, à deux balles,
vraiment.
Allée.
Pardon.
Voilà, nous sommes à 21 km de Dijon.
Retire.
Bonjour Léo,
bonjour.
Bienvenue à vous.
Oui. Bonjour.
Merci d'être là. Il y a quelques années, vous avez décidé de quitter Lyon pour vous installer dans ce village bourguignon, dans le but d'expérimenter donc l'autonomie alimentaire avec de l'agriculture citoyenne, avec d'autres personnes. Vous n'étiez pas seul. Comment a démarré ce projet qui illustre, moi je trouve, assez bien ce dont on parlait tout à l'heure sur la transition écologique? Vous êtes d'accord ou pas avec ça?
Oui, on s'inscrit complètement dans cette idée que si transition écologique il y a, elle doit partir de la base, c'est-à-dire de ce que les gens peuvent faire ensemble, ont envie de faire ensemble. Et donc nous, l'idée, c'était vraiment ça, c'était que derrière les grands discours, derrière les incantations, il y a en fait des pratiques qu'il est possible de mettre en place très concrètes. Mais pour ça, il faut le faire collectivement. Donc voilà, nous, on a décidé de s'installer dans ce petit village pour expérimenter finalement une autre façon, effectivement, de faire de l'agriculture, un autre rapport à l'alimentation, pour relever les défis à notre échelle, à l'échelle de notre territoire, défis de la transition écologique et sociale. Mmh. Parce qu'il y a aussi des enjeux en milieu rural notamment, mais pas que, des enjeux sociaux très importants, liés notamment à la perte de sens, à l'isolement, et dans le milieu agricole, c'est très fort. Mmh. Donc c'était vraiment cette idée d'une expérimentation concrète, collective, pour faire autrement et effectivement, comme vous le dites, essayer à notre échelle de regagner notre autonomie alimentaire.
Alors c'était le projet, l'installation paysanne pour relever le défi de repeupler justement les campagnes dans un contexte où il y a de moins en moins d'agriculteurs dans notre pays. Concrètement, comment vous avez fait pour réunir, il y a plus de 300 adhérents maintenant autour de vous, parce qu'il y a une association, il y a également la possibilité de racheter des terres. Comment vous avez mis tout ça en place pour que justement il y ait des choses concrètes qui soient faites?
Alors, on est parti avant l'association Rhizome, donc on a créé effectivement un GFA, donc un groupement foncier agricole, qui est un outil pour acquérir collectivement des terres agricoles, pour ensuite les mettre à disposition sous forme de location à des agriculteurs.
Ouais.
Si on a voulu faire ça, c'était pour partir du plus concret qui est, c'est la terre. C'est-à-dire que la terre nourricière, comme en fait la base de notre alimentation, la base de l'agriculture. Et donc, le message qu'on a voulu faire passer au départ, c'est l'agriculture va mal, les signaux sont rouges, d'un point de vue social et écologique. Comment on peut faire, nous, habitants d'un territoire, dans une coopération fertile, dans une solidarité avec les paysans, pour relever le défi, mais ensemble? C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment, en rachetant des terres agricoles collectivement, donc le GFA qui a été créé, c'est aujourd'hui 123 associés, ça a été de dire, l'agriculture, en fait, c'est notre affaire à tous. Et les paysans pourront pas tout seuls relever ce défi-là. Voilà, donc c'est parti de cet aspect très très concret. Voilà, donc on a aujourd'hui pu racheter presque 10 hectares de terres agricoles pour soutenir l'installation de plusieurs agriculteurs. Et c'est de ces aspects très concrets, très pratiques. Comment on se réapproprie la terre, comment on se réapproprie notre alimentation, qu'est née l'association Rhizome, qui ensuite évidemment a amplifier cette dynamique-là dans plein de directions différentes.
Léo, vous parlez de concret. À quoi ça ressemble, du coup, vers chez vous? Vous avez donc acheté des terrains. Est-ce que vous y prenez part également? Enfin, il n'y a que les agriculteurs. Vous aussi, vous travaillez dessus. Comment ça se passe avec les habitants? À quoi ça ressemble?
Alors, c'est encore une fois, c'est très concret. C'est que c'est un lieu. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une importance d'investir des lieux, d'habiter des lieux. Et donc, nous, on n'a pas simplement acheté des terres. On a aussi acquis collectivement un lieu sur lequel on pensait possible de construire des alternatives. Donc c'est un lieu où il y a de l'habitation, plusieurs habitations. C'est un lieu où il y a une brasserie artisanale, il y a un café associatif, parce que nous sommes dans un village où les lieux de sociabilité manquent. Plus de commerces, plus de bars, plus de cafés. Et donc, il nous semblait important de recréer des lieux de sociabilité où les gens puissent se rencontrer. Donc, sur ce lieu, il y a un café associatif. C'est également sur ce lieu qu'il y a le fournil paysan d'un des agriculteurs du GFA, hein, Cyril, qui fait deux fois par semaine du pain sur la base de ses farines, qu'il produit lui-même. Donc, c'est un lieu de vie, voilà, avec différentes activités. Et c'est également à côté de ce lieu qu'il y a un certain nombre de terres agricoles et notamment des activités de production. Donc voilà, on est sur l'idée d'une émulation à partir d'un lieu où on croise à la fois des projets associatifs, des projets professionnels, économiques, qu'ils soient agricoles ou liés à l'artisanat.
Ouais. On parlait de l'association tout à l'heure, Léo, on disait justement l'organisation horizontale, c'est le cas chez vous, hein. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de bureau, tout le monde a le droit de donner son avis et participer aussi à la vie du village. Hein.
Ben, disons que nous, voilà, la Rhizome, c'était vraiment la philosophie. Hein, la philosophie de notre association Rhizome, d'ailleurs la métaphore avec le rhizome, qui est une métaphore botanique, elle a du sens, puisque voilà, nous on a vraiment voulu quelque chose d'horizontal. Il n'y a pas de centre, une périphérie, hein, pas de verticalité, pour que chacun puisse trouver au sein de cette association un espace bienveillant pour y développer ses envies, ses projets. Voilà, collectivement. Donc le Rhizome comme association, c'est aussi une autre façon de faire ensemble d'un point de vue démocratique. Mmh. Voilà, pour essayer de repenser nos organisations, parce qu'on peut pas rêver d'un autre monde si la pratique pour arriver à cet autre monde, en fait, ne correspond pas à nos valeurs et à nos finalités. Donc on expérimente en fait le monde que l'on souhaite voir advenir plus largement.
Voilà. Alors et Léo, justement,
en fait, c'est une sorte de laboratoire pour ça.
Samedi, hein, il y aura un rendez-vous à la salle des fêtes de Malin. Donc hein, je rappelle que c'est en Bourgogne, à 20 km de Dijon. Ce sera à 20h30, une table ronde que vous organisez sur ce thème justement d'une agriculture responsable avec l'enjeu de la réappropriation foncière au niveau territorial. Donc ceux qui sont dans la région et qui souhaitent vous rejoindre, ce sera donc 20h30 à la salle des fêtes de Malin. Et puis tout le projet agriculturel en deux mots, hein, est disponible sur votre site alternative-agriculturel.fr. Merci beaucoup Léo d'être passé par chez nous.
Au revoir.
Et à très bientôt. Allez, dans un instant, notre invité découverte va nous parler astéroïdes.
Doux réveil, au goût amer, était-ce un cauchemar, oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi, j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. C'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres, et je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
les matins. C'était la voix d'Angèle.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Sylvain Boulet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géophysicien à l'Université Paris-Sud-Orsay. Le 3 octobre dernier, le Muséum National d'Histoire Naturelle a lancé Vigicratère. Qu'est-ce que c'est exactement que ce programme participatif?
Eh bien, Vigicratère, c'est un programme effectivement de sciences participatives lancé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Paris-Saclay et d'autres partenaires qui invitent tout simplement le public a participé à la recherche de nouveaux cratères d'impact. Mmh. Parce que il reste encore de nombreuses traces de collisions d'astéroïdes à la surface de la Terre qui n'ont pas été découvertes. Et donc, on fait appel au grand public pour essayer de retrouver leurs traces à la surface. Mmh.
Alors, nous, on essaie de faire un lien, évidemment, entre la nature, l'environnement et, pourquoi pas, ces objets célestes. En quoi ça peut être intéressant, justement, d'en parler dans une émission d'écologie, selon vous?
D'écologie et puis d'histoire de la Terre, voilà, tout ça est relié tout simplement parce que la surface de la Terre, l'environnement terrestre a été modelé depuis plus de 4 milliards d'années par les collisions d'astéroïdes. Donc évidemment, c'était majeur au tout début, il y a 4 milliards d'années, et puis encore actuellement, il y a des astéroïdes qui viennent tout simplement modifier l'environnement de la planète Terre.
De quelle façon d'ailleurs, ça modèle nos paysages, pour qu'on se rende compte?
On peut prendre le cas le plus connu, celui qui a eu lieu il y a 66 millions d'années avec notamment la disparition de 70% des espèces et notamment des dinosaures, avec cet impact de 200 km, ce cratère de 200 km qui a été retrouvé dans le golfe du Mexique et qui évidemment a chamboulé complètement l'histoire de la planète Terre.
Camille, vous intéressez aux astéroïdes aussi?
Non, mais j'étais en train de réfléchir, pardon, j'étais en train de regarder vos notes, je me demandais une question tout à fait simpliste. Quelle est la différence entre un astéroïde et un météorite?
Mais c'est une très bonne météorite. Question.
Tout simplement, un astéroïde, c'est tout simplement le corps qui tourne autour du Soleil dans l'espace, et la météorite, c'est le morceau d'astéroïde qu'on retrouve au sol sur Terre. Ouais. Donc vous avez le morceau dans l'espace, le morceau qu'on retrouve à la surface de la Terre.
Bon, il y en a souvent qui nous tombent sur le coin de la figure ou pas alors? Parce que quand on regarde la Lune, on voit les cratères. Là, on a une bonne vision justement de ce qu'est un cratère d'impact. Hein.
Tout à fait. Alors sur la Lune, on a accès à des cratères pour la plupart qui se sont formés il y a plus de 3 milliards d'années, donc des cratères très anciens. Sur Terre, il en arrive régulièrement. Alors heureusement pour nous, des majeurs qui peuvent modifier complètement notre écosystème, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver. On peut prendre le cas du météore cratère qui s'est formé à 50 000 ans seulement, qui fait quand même 1 km de diamètre, et quand même qui a eu, qui était quand même un spectacle en soi il y a près de 50 000 ans.
Mais ça s'est passé où? C'est tombé où?
C'était dans le golfe du, dans le désert de l'Arizona, en fait. Donc on peut le voir, hein, à côté du Grand Canyon. Si vous allez au Grand Canyon, allez voir le météore cratère, c'est pas forcément connu et c'est quand même impressionnant.
Alors il y a une belle bête, hein, quand même, qui est tombée sur Terre en février 2013. C'est la météorite de Tcheliabinsk en Russie, et on a même l'enregistrement du passage de ce bolide dans le ciel, donc au-dessus de la Russie. On va l'écouter, vous allez le commenter avec nous, Sylvain Boulet. Joli feu d'artifice.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on a entendu dans cet extrait exactement alors?
En fait, ce qu'on a entendu, donc il y a un objet de 18 mètres de diamètre qui est rentré dans l'atmosphère, qui s'est fragmenté à une vingtaine de kilomètres d'altitude, et cette fragmentation a créé une onde de choc, et c'est cette onde de choc qui va notamment créer le son dont on a entendu là à l'instant. Ouais. Et alors heureusement pour nous, c'est-à-dire que le corps de 18 mètres, lui, s'est fragmenté. Il n'est pas arrivé en tant que tel à pleine vitesse à la surface, et donc n'a pas créé de cratère d'impact. Ouais. Et donc évidemment, Vigicratère, l'objectif, c'est rechercher les cratères d'impact, retrouver ces cicatrices, ces grosses cicatrices, parce que voilà, un objet de 20 mètres n'est pas suffisamment gros pour faire un cratère d'impact. Et donc on cherche finalement les cicatrices laissées par des objets de plus de 50 voire 100 mètres de diamètre.
Comment on enregistre le son qu'on vient d'entendre?
Là, tout simplement avec un...
Dans le ciel?
Tout à fait. Non, ça va faire des ondes sonores tout à fait audibles par l'oreille.
Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Le passage dans l'atmosphère, en tout cas, est très impressionnant. Est-ce que vous avez été capable de faire un inventaire de ces cratères en nombre, en tout cas? Vous en avez une idée précise ou pas?
Alors aujourd'hui, oui, on a une pseudo-base de données. On est en train de se coordonner pour essayer de faire une base de données officielle, mais on est autour de 200 structures d'impact connues dans le monde entier. Ouais. Voilà, 200.
C'est pas énorme, en fait, c'est pas énorme. À l'échelle de la Terre.
C'est pas énorme. Il faut bien réaliser tout simplement que l'histoire de la Terre est surtout modelée par la tectonique des plaques. Et donc, depuis 4 milliards d'années, la surface de la Terre a été renouvelée et donc a effacé tous les cratères d'impact qui se sont formés il y a près de 4 milliards d'années. Et donc, aujourd'hui, les 200 cratères, on les étudie, on essaye de comprendre comment ils se sont formés, quels ont été les impacts, mais il en reste encore encore à découvrir. On pense qu'il existe encore quelques centaines de cratères d'impact à découvrir à la surface de la planète Terre. Et comme la Terre est grande, eh bien, il faut faire appel au plus grand nombre pour essayer de retrouver ces cicatrices.
Donc Camille et moi, et Antoine, on est capable de vous aider, vous les scientifiques, concrètement ?
Tout à fait.
Même si on n'y connaît rien aux astéroïdes.
Non, mais c'est surtout, mais est-ce que ceux que vous n'avez pas encore vus ou trouvés, ils ne sont pas dans des zones complètement paumées, et donc, en fait, vous aurez beau faire appel au public, personne n'est sur place, donc personne ne les verra non plus.
Alors, Vigicrater, en fait, l'objectif, c'est déjà de faire une analyse, d'essayer de détecter des structures grâce aux données satellites, notamment au relief et à l'imagerie. Si vous allez pouvoir vous inscrire sur vigicrater.org, vous allez avoir votre petit...
Faut rentrer le mot de passe, moi j'ai fait la manip tout à l'heure. Voilà.
Et puis, on va vous donner au hasard des images à analyser. Là, vous allez essayer de retrouver des structures circulaires qui vont rentrer dans une grande base de données. Ensuite, on va proposer au grand public de voter sur la nature potentielle de ces structures. Est-ce que c'est un volcan ? Est-ce que c'est un cratère d'impact ? Est-ce que c'est une cavité plutôt créée par l'homme ? Et là, évidemment, avec le nombre de participants, on va essayer de faire émerger les structures qui sont potentiellement des structures d'impact. Tout ça, évidemment, est expliqué sur le site. On a des tutoriels qui vous permettent de comprendre le protocole, de pouvoir savoir comment, justement, essayer de voter correctement et de dessiner correctement les structures d'impact. Et puis après, on fait un appel au grand public, mais partout dans le monde, puisque le site est aussi en anglais. Et l'idée, c'est que, vous avez une structure qui a été détectée à côté de chez vous, en Côte d'Ivoire. Eh bien, vous allez faire un tour là-bas, vous prenez des photos, et puis vous les postez sur notre site. Et comme ça, tous les scientifiques du projet vont avoir accès à ces images et pouvoir se dire, ah tiens, là c'est intéressant, il faudrait peut-être organiser une expédition d'exploration.
Ouais, sauf que Sylvain Moulet, ce que je comprends pas, c'est que vous avez identifié 200 cratères d'impact. En quoi peut vous aider puisqu'ils sont déjà identifiés?
Alors attention, là ce sont les 200 cratères qui ont été validés par la communauté scientifique depuis près de 50 ans.
Donc c'est tous ceux qui restent et dont on n'est pas sûr.
Exactement, maintenant il faut continuer à découvrir les nouveaux cratères, c'est-à-dire qu'on en connaît 200 et on pense qu'il en reste encore quelques centaines à découvrir.
Ouais. Mais encore une fois, je veux dire, mais ils ne vont pas être là en bas au bord de la Seine ou en plein Paris, en plein Toulouse ou en plein Londres.
Non, tout à fait, mais c'est pour ça qu'on... On a des images satellites qui recouvrent tout le monde entier, donc effectivement, quelqu'un assis à Paris pourrait très bien découvrir un trou au Groenland. À ce moment-là, on va essayer de documenter cette structure qui a été identifiée par les imageries satellites. Si quelqu'un va se promener au Groenland et prendre des photos, on va pouvoir avoir un peu plus d'informations. Et là, évidemment, ça va motiver toute la communauté internationale de se dire qu'il faut organiser une expédition là-bas pour essayer de l'étudier.
Donc moi, je suis allé sur votre site. D'abord, on travaille sur des photos que vous nous proposez. C'est ça qui sont d'ailleurs... C'est très compliqué d'en faire une analyse particulière.
Alors,
enfin, bon Dieu aussi.
C'est intéressant parce qu'en fait, on n'a pas voulu faire l'analyse directement sur les images satellites comme vous pouvez voir sur Google Earth. On a voulu travailler sur le relief. Tout simplement parce qu'on peut peut-être trouver des structures qu'on ne voit pas à travers les images satellites, mais qu'on voit sur le relief. Au Groenland, on a un exemple qu'on a vu.
À quoi ça ressemble, pardon
Eh bien, c'est tout simplement une dépression circulaire, un trou qu'on va voir. Et donc, sur les images de relief, on voit véritablement une dépression circulaire et qui montre un trou, un enfoncement de plusieurs centaines de mètres de profondeur au moins.
Et donc, on va essayer de définir ce que c'est.
On va essayer de définir ça ensemble. Exactement. Et l'idée, c'est effectivement, dans les prochaines années, de pouvoir continuer cette exploration parce que connaître toutes ces cicatrices sont extrêmement importants pour connaître tout simplement mieux l'histoire de la Terre.
Est-ce que sur les 200 connus, là, pour le coup, validés par la science, il y en a beaucoup en France, métropolitaine et en France plus généralement?
En France plus généralement, il y a une seule structure d'impact qui se situe à Rochechouart, à côté de Limoges. Cette structure n'est même pas visible sur les images satellites, on ne voit que à travers les roches. Donc si vous allez vous balader là-bas, allez vous promener quand même à Rochechouart, il y a un chouette musée, vous allez pouvoir découvrir un petit peu des affleurements rocheux qui vous montrent un petit peu la puissance de cet impact qui a eu lieu il y a 200 millions d'années. C'était 200 millions d'années et on pense que c'est une vingtaine, trentaine de kilomètres de diamètre.
Quand vous dites prendre des photos, c'est vraiment des petits bouts de la structure d'impact alors.
Alors oui, c'est-à-dire que pour démontrer l'existence d'un cratère d'impact, on vous demande pas de prendre le cratère en entier. En fait, on vous demande de prendre des photos alors du paysage quand même parce qu'on y est intéressé et puis des roches parce que pour démontrer qu'une structure est bel et bien un cratère d'impact, il faut montrer qu'il y a eu un choc extrêmement puissant qui a modifié la nature des minéraux qu'il y a à l'intérieur des roches. Et donc ça en étudiant ça grâce au microscope et tout simplement en prenant déjà des photos, vous allez pouvoir nous donner des indices sur la nature ou pas de la structure.
C'est chouette la science participative, non?
C'est chouette, ça nous permet effectivement de parler de thématiques dont on ne parle pas souvent et voilà, de pouvoir découvrir un peu mieux notre Terre.
Donc ça s'appelle Vigicratère, il suffit de le taper sur Internet, on tombe dessus quasiment directement.
Qui fait partie du programme plus généralement de Vigiciel, voilà, porté par le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc vous pouvez arriver par Vigiciel et Vigicratère et à vous de jouer, à vous de chercher.
Bon, bah on va essayer de faire ce qu'on peut pour vous aider.
Allez.
Merci Sylvain Boulet.
Merci.
Merci beaucoup d'être passé dans la Terre au carré. Camille, bonne journée.
À demain.
Et on se retrouve demain, bien sûr.